Bonjour Clara, merci d'être encore une fois mon invité de l'autre côté de l'Atlantique.
Merci à vous, Frédéric, de m'inviter.
On va se tutoyer comme on fait ici à Montréal. Donc bienvenue pour ce 10e épisode du podcast sur le Tech Clash. Le titre cette semaine, c'est finalement Google est maintenant sous la loupe et c'est finalement le premier lien qu'on vous propose. Encore une fois, le format, c'est donc 15 minutes de conversation sur un mode transatlantique autour de trois points et de trois liens qui ont marqué les derniers jours dans l'actualité du Tech Clash. Donc, Clara, je te laisse commencer sur Google qui serait possiblement la prochaine cible de Washington, étant donné que YouTube notamment s'est encore fait prendre la main dans le sac, si j'ose dire, à mettre en avant des contenus nauséabonds.
Oui, alors on avait longtemps cette semaine, ces dernières semaines, parlé de Facebook qui vendait les données des utilisateurs à des tierces entreprises. Là, c'est Google qui était sous les projecteurs cette semaine parce qu'en fait, on s'est aperçu que YouTube laissait passer des contenus ultra violents, les mettait en avant et au point même de créer des incidents politiques, on pourrait dire graves, des incidents dans la société civile dans différents pays. Sans que ces contenus soient régulés et retirés de la plateforme.
Et en fait,
Donc
tu
là,
faisais un point important que c'est pas nécessairement de la régulation, mais c'est plus un point de business.
alors c'est presque un point de business, je me dis, parce que la régulation, on aborde souvent la chose sous le terme de la régulation qui est institutionnelle. En fait, là, la question, c'est vraiment comment les annonceurs de YouTube vont encore faire confiance à la plateforme s'ils se disent, tiens, on va aller faire une publicité pour des bouteilles d'eau, et puis 2 semaines après, nos vidéos ou entreprises pour justifier des violences entre groupes sociaux, entre groupes d'origine géographique. Ça peut avoir une incidence énorme sur le business, donc le modèle économique de YouTube, rappelons-le, c'est la publicité. Donc là, les annonceurs vont perdre confiance, et c'est même plus une question de régulation, de censure ou d'être raisonnable, c'est que la question du modèle, des fondements du modèle économique de YouTube se posent et sont remises en question.
Oui, là, tu abordes un point très très important qui est vraiment le cœur finalement du réacteur, si j'ose dire, pour YouTube, qui est la capacité de la plateforme de s'opérer quasiment de manière automatique. Et c'est bien là tout le problème. C'est que toutes ces plateformes qui sont sur un mode de self-service, entre guillemets, finalement ne font du contrôle que a posteriori, très souvent et très tard. Et on a déjà vu
Très
des
tard, et puis
épis.
quand les médias souvent l'ont repris, quand ça a été
Voilà.
dénoncé, ça a été donc beaucoup trop tard.
Et en fait, ce n'est pas la première fois qu'ils se font prendre, Google, avec leur filiale YouTube. Il y a déjà eu des arrêts sur la plateforme de très gros annonceurs il y a quelques mois. Et là, ça continue. Donc, l'article de CNN qu'on vous propose montre que ce n'est pas la première fois. Et là, c'est vraiment des très, très, très grosses marques, hein. On parle de Under Armour, qui est une grosse marque d'équipement sportif qui a annoncé à la suite du reportage de CNN qu'ils arrêtaient la publicité sur YouTube. Et il y a aussi, et ça c'est quand même pas rien, des agences gouvernementales américaines, il y en a cinq, notamment la CDC qui est là pour gérer la santé et notamment tout ce qui est virus. Donc là c'est quand même assez complexe pour YouTube. On voit encore une fois un espèce de déni du management qui ne sait pas bien comment répondre et c'est un petit peu le problème. On va passer au deuxième point qui nous remet avec notre Peter Thiel préféré que je nomme là le possible mauvais génie de la collecte de données. Il y a un article assez glaçant sur Palantir, qui est cette société qui a été démarrée par Thiel et des anciens de PayPal, et qui est ni plus ni moins que le nec plus ultra de la collecte de données personnelles, utilisée à la fois par des agences de renseignement type police aux États-Unis ou militaires. Et là, on a en fait quasiment le monde décrit dans Minority Report il y a presque 20 ans maintenant, puisque c'était en 2002. ce roman de Philip K. Dick qui a été une des références qu'on a utilisées. Je voulais avoir ton point de vue là-dessus, notamment par rapport à bah, tout ce qui est la GDPR, RGPD européenne.
Oui, alors en Europe, on a vraiment l'impression que Peter Thiel, sorte de malin génie, sorte de cauchemar de ce modèle économique de toutes ces plateformes qui sont finalement basées sur, en quelque part, le vol des données personnelles. Il y a presque une notion de vol des données parce que les plateformes sont d'accès gratuit et en fait, elles sont reprises et l'utilisateur ne sait pas ce qui se passe. C'est vraiment un Minority Report. En Europe, on commence à essayer de faire des lois sur la protection des données personnelles, mais c'est pas encore au point, et surtout le problème de l'Europe, c'est qu'il n'y a pas d'unité entre les États européens, on n'est pas dans un modèle fédéral.
C'est un point effectivement qu'on avait abordé ensemble la semaine dernière. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a, avec Palantir, il y a quelques citations qui sont assez savoureuses dans l'article, un peu le côté rué vers l'or, littéralement, puisque c'est le terme utilisé. Je fais la citation en anglais. Il y a donc JP Morgan qui en parle dans des termes dithyrambiques en 2011 à Bloomberg, qui a sorti cet article sur Palantir et qui dit que Palantir permet de tourner ce qu'ils appellent des data landfills into gold mines, donc ça voudrait dire transformer des déchetteries en fait de données en mines d'or. Donc ça c'est le côté qui fait rêver, mais de l'autre on a effectivement une espèce de dépossession comme ça de l'individu dans la vie de tous les jours parce que bah, il est tracé, quantifié, collecté, etc. Et se pose là une vraie question qu'on a déjà abordée dans le podcast sur...
On se demande vraiment si c'est des données ou des volets, en fait.
Exactement. Et moi, j'aime assez le côté un petit peu à contre-courant de Gaspard Koenig qui lance avec Génération Libre toute la réflexion sur ce qu'il appelle, lui, la patrimonialité des données et le fait de pouvoir éventuellement rendre à l'utilisateur citoyen la propriété de ces données et forcer quelque part les plateformes à rétribuer les citoyens pour l'utilisation. Je ne sais pas ce que tu en penses, est-ce que c'est un vœu pieux ?
Pas forcément, c'est peut-être un business model à venir en fait. Hein. C'est même une sorte de citoyenneté peut-être future. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de lois, de droits des individus et ce paramètre n'a pas encore été pris en compte dans les droits généraux des individus, donc ce serait peut-être une bonne chose en fait.
Est-ce que tu penses que les États européens sont suffisamment mûrs pour y arriver ? Alors tu mentionnes effectivement, on l'oublie trop souvent, le fractionnement juridique de l'Europe, même si les hautes sphères européennes permettent à un niveau supranational de refaire descendre tout ça. Est-ce qu'on arrive à une maturité suffisante des gouvernements pour enclencher au moins une expérimentation de ça ?
Des gouvernements, je ne sais pas, mais en tout cas, des citoyens eux-mêmes ne sont pas encore toujours éduqués aux données. Parfois, ils ne savent pas vraiment de quoi il s'agit. Déjà, il y a ça. Et les gouvernements eux-mêmes ne font pas toujours la différence entre en fait l'open data et puis les données dont chaque citoyen pourrait se revendiquer le propriétaire exclusif.
Alors ça, c'est un excellent point. Effectivement, il y a tout ce mouvement de l'open data, les données ouvertes.
Parce que les gouvernements ont besoin de certaines de nos données. Il ne faut pas non plus être naïf pour améliorer le système de santé, notamment en France, le système de l'éducation. Il faut fournir des données.
C'est un excellent point et je pense qu'on va y revenir. Dans le troisième lien du jour, c'est ce que moi je qualifie de possible déplacement du TechClash hors de l'Amérique du Nord et de l'Europe. Un article fleuve très 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 documenté du New York Times sur l'origine des échauffourées au Sri Lanka et dans d'autres pays à cause de Facebook comme finalement la seule plateforme dans ces pays-là de dialogue souvent dévoyée par des minorités violentes. On a eu des violences entre des bouddhistes et des musulmans sur l'île du Sri Lanka, qui reste excessivement divisé depuis des décennies. Le fait qu'il y a dans ces pays une montée comme ça des violences qui sont soufflées finalement par la conjonction de Facebook et de WhatsApp aussi avec les téléphones intelligents, les smartphones, ça repose le problème de la responsabilité des plateformes par rapport aux mauvais acteurs, comme on dit, qui viennent se greffer sur ces plateformes. On sent une prise de conscience. Cet article, je pense, va faire date. Mais on a, de mon point de vue, une espèce de naïveté encore de Facebook notamment, qui a conscience mais ne sait pas bien comment prendre le problème. On en parlait juste avant l'enregistrement. Moi je pense qu'il y a un problème fondamental de leur positionnement où d'un côté ils disent oui mais nous on n'est pas là pour réguler le free speech, la capacité des gens de parler librement, mais en même temps tu vois le fait qu'ils ont déjà commencé à censurer. On pense à tous les petits épiphénomènes de la dernière année sur notamment les jeunes mamans qui avaient des groupes Facebook où elles échangeaient des photos d'elles en train de donner le sein à leurs enfants et ça avait été censuré. Donc là, j'ai vraiment l'impression que Facebook est un peu à la croisée des chemins et on va avoir ce possible déplacement du tech clash hors de l'Amérique et de l'Europe, parce que tous ces pays où il n'y a pas de forum finalement de discussion, Facebook c'est un des seuls, c'est rapidement dévoyé.
Alors dévoyé, oui, en même temps c'est le reflet, Facebook est le reflet de toutes les violences qui existent au quotidien chez les gens, par exemple au Sri Lanka, entre il y a des Tamouls et des Sinhalais qui sont violents entre eux depuis des années, et Facebook exacerbe les violences étant donné que c'est la seule plateforme où on peut écrire et on peut publier sans être censuré. Après, ce qui est nouveau avec la radio en fait, parce qu'il y avait toujours des radios où par exemple des personnalités extrêmes appelaient à la violence, et ça existe encore aujourd'hui, c'est que Facebook, il n'y a aucune régulation. Tout le monde, tous les contenus sont sur le même plan, un plan d'égalité. Donc ça, c'est quand même assez nouveau. Donc il n'y a rien pour arrêter, il n'y a rien pour limiter l'accès de violence. On ne peut pas non plus éteindre comme on éteint la radio ou la télévision.
Exact.
Donc c'est du non-stop. C'est ça qui a changé. Et surtout, autre chose, c'est transporté dans le monde entier. Donc les diasporas peuvent elles aussi s'exprimer et en rajouter dans un sens ou dans un autre. C'est un amplificateur de violence indéniable. Et ça, je pense que les plateformes n'ont pas assez pris en compte. Ils se sont juste dit, bon, il y a toujours des contenus haineux un peu partout. C'est la liberté de dire ce qu'on veut. C'est pas nouveau. En fait, si, c'est nouveau. C'est ça, à mon avis, la naïveté de Facebook, qui n'a pas voulu se positionner. C'est un problème de positionnement. Tout de suite, dès que Facebook est devenu mondial, il aurait fallu être beaucoup plus clair là-dessus.
C'est vraiment un point crucial qui a été abordé vraiment du bout des lèvres quand Facebook a été invité en la personne de Zuckerberg il y a quelques semaines devant le Congrès américain. Il va revenir, je pense, en parler, parce que là, on a finalement le revers de la médaille du soft power américain qui a été jusqu'à présent très très fier finalement que ce soit Facebook, WhatsApp, etc. qui viennent servir de courroie de dialogue, de transmission entre toutes les populations du monde. Et là on voit le revers de la médaille, on voit que les Américains sont montrés du doigt comme des mauvais acteurs finalement parce qu'ils n'arrivent pas à réguler ces plateformes. Tu poses le problème de façon excellente sur la comparaison avec la radio. C'était la radio, on s'en souvient, qui a servi de vecteur de haine et d'appel au génocide au Rwanda en 1994. La radio, c'est un média que tu peux effectivement couper à un moment puisqu'il y a des licences accordées qui peuvent être tirées.
Les Mille Collines par exemple.
Les Mille Collines. Exactement. Facebook n'a pas de licence d'exploitation dans aucun pays, puisqu'on est dans le monde ouvert de l'Internet, et ça pose tout ce problème-là. Je pense qu'on est là au début de ce questionnement des plateformes, et la grande question va être Est-ce qu'elles vont être suffisamment mûres maintenant pour s'autoréguler sans tomber dans la censure? Donc là, on a quand même un vrai exercice d'équilibriste. Ou est-ce que les États vont y aller, possiblement au bazooka, puisqu'on ne pense pas que les États vont être capables de faire de la régulation chirurgicale. Ça va plutôt être dans l'excès inverse. Sur ce, je te remercie pour ta présence virtuelle aujourd'hui pour ce 10e épisode. Et je vous donne rendez-vous tous et toutes à la semaine prochaine. Merci.
Merci.